Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Anna Olvec, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous achevons aujourd'hui notre série consacrée aux relations entre économie et démocratie. Après avoir examiné les mécanismes de résistance à l'impôt, interrogé le compagnonnage du capitalisme et de la démocratie et posé la question du pouvoir de l'argent dans les élections, c'est le dialogue social et les menaces qui pèsent sur lui qui vont nous occuper aujourd'hui. L'échec de la négociation sur l'assurance chômage fin février a donné du grain à moudre au chef de l'État qui ne s'est pas privé d'adresser quelques piques aux syndicats. Emmanuel Macron n'a jamais caché sa défiance à l'égard des partenaires sociaux, jugés trop peu efficaces. En réponse, ces derniers ont estimé que ces négociations avaient été un piège tendu par le gouvernement. Une illustration de plus des tensions qui traversent le dialogue social en France, à l'heure où le syndicalisme souffre d'une grande crise de légitimité. Alors quel avenir pour la démocratie sociale dans notre pays? Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de démocratie sociale, nous accueillons autour de la table Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne et directeur de cet ouvrage collectif « La démocratie sociale en tension » paru aux éditions du Septentrion. Avec nous également Karel Lyon, sociologue chargé de recherche au CNRS, auteur avec Baptiste Giraud et Sophie Bérou de « Sociologie politique du syndicalisme » publié chez Armand Collin. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Donc moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça ne marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale.
Bonjour Dominique Andolfato et Karel Lyon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On entendait Franck Lepage, l'inventeur des conférences gesticulées, ces témoignages sur scène qui interrogent de différentes manières les mécanismes de la domination sociale. Alors que vous inspirent ces propos sur le pouvoir des mots pour commencer, Dominique Andolfato?
Alors, je ne sais pas s'il faut peut-être que je parle de le mot qui est apparu, dont on va peut-être parler, c'est le mot dialogue. Alors, c'est vrai que ce terme, il apparaît dans le débat public en France. Je ne sais pas si Karel Lyon sera d'accord avec moi. Dans les années 60, enfin, j'avais essayé de repérer dans certains discours politiques qui étaient les personnages politiques qui avaient évoqué pour la première fois ce terme de dialogue social. Alors, quand on remonte dans le temps, c'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mmh. Mais j'avais repéré ce mot dans les deux discours d'investiture de Pompidou en 67 et de Chaban-Delmas, le fameux discours sur la nouvelle société. Tous les deux parlaient du dialogue et tous les deux, derrière ce mot dialogue, ils ne parlaient pas précisément de dialogue social. On parlait de dialogue, mais ça s'appliquait à l'univers de l'entreprise. Et l'idée, c'était d'avoir une autre approche des rapports de travail, une approche qui serait, je ne sais pas comment la qualifier, post-marxiste, enfin, une approche qui ne serait plus agonistique des rapports de travail, une approche dans laquelle on essaierait de réconcilier, c'est un bien grand mot, mais enfin faire dialoguer l'employeur et les salariés. Donc voilà une histoire, une très brève histoire politique du mot dialogue, et on va lui donner un certain sens politique à ce terme.
Cette expression de dialogue social, elle est difficilement décorrélable, si je puis dire, de celle de démocratie sociale, Karel Lyon.
Alors, en fait, cette association entre dialogue social et démocratie sociale est assez récente. Ça date du tout début des années 2000, puisque effectivement, on parlait beaucoup de dialogue social. On en a de plus en plus parlé en France dans les années 80-90 aussi. Et puis, l'expression démocratie sociale, elle apparaît au tout début des années 2000. Elle a été consacrée dans le droit par la loi de 2008 qui réforme les règles de représentativité syndicale, mais qui s'intitule « Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ». Et ce qu'on pourrait dire en quelque sorte, ce qu'apporte la notion de démocratie sociale à celle du dialogue social, c'est l'idée du dialogue social légitimé par les élections. Et ça renvoie à ce qui était en jeu dans la réforme de la représentativité de 2008. Mais un autre aspect, pour faire peut-être plus directement le lien avec les propos de Franck Lepage, c'est le fait que certains mots peuvent avoir d'emblée une connotation positive. Et qui pourrait aller contre la démocratie sociale? Qui pourrait s'opposer à la démocratie sociale? Quand on désigne la démocratie sociale, on a l'impression aujourd'hui de désigner du coup une réalité qui est déjà là. Donc la question de la démocratisation des relations de travail ne se pose plus, puisqu'il y a déjà de la démocratie sociale. Et on met en porte-à-faux tous ceux qui chercheraient à porter un regard un petit peu plus critique sur sur les choses que ce mot peut désigner.
Si on regarde les choses de plus près, les ordonnances de l'été 2017, réformant le Code du travail, visaient officiellement au renforcement du dialogue social. C'est en tout cas ainsi qu'elles ont été présentées, Dominique Andolfato.
Oui, c'est tout à fait ainsi. En fait, il y a eu beaucoup de réformes du Code du travail depuis les années 2000. Et toutes ces réformes se sont faites au nom soit du dialogue social, soit de la démocratie sociale. Souvent, le terme apparaît plus ou moins interchangeable. Il y a une dizaine de réformes qui pensent s'intituler. Et c'est vrai que les ordonnances portent sur le renforcement du dialogue social. Alors probablement, pourquoi ce terme? Sans doute parce qu'il y avait au départ l'idée qu'on allait mettre une couche de plus concernant la décentralisation des négociations collectives. On allait vraiment essayer de rapprocher la fabrication de la norme de travail des travailleurs, des entreprises. Enfin, on allait confier, c'était aux travailleurs et aux employeurs de mettre leurs mains dans le cambouis, en quelque sorte, pour fabriquer la norme sociale. Donc, on allait fabriquer la norme juridique à travers le dialogue social. Et donc, on voulait renforcer ça. Même si, en réalité, ça ne va pas se faire exactement comme ça.
C'est l'idée de négocier à l'échelle de l'entreprise et de donner, du coup, plus de pouvoir aux syndicats de salariés.
Aux syndicats, voilà. Les syndicats de salariés, les représentants des salariés vont co-fabriquer avec les employeurs la norme de travail, et puisque le Parlement ne veut plus s'investir en quelque sorte dans la réforme de ce code, on préfère confier cette tâche aux intéressés eux-mêmes.
Et pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une méfiance des syndicats de salariés envers cette expression de démocratie sociale. Pourquoi cela, Carélien?
Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Dominique, l'année précédant les ordonnances Pénicaud-Macron, Myriam El Khomri, elle présentait la loi qu'on va appeler loi El Khomri ou loi travail comme une nouvelle étape dans la refondation de la démocratie sociale. Et pourtant, on sait que cette loi a aussi suscité une opposition syndicale très forte. Je suis pas certain qu'il y ait une défiance des syndicats vis-à-vis de la démocratie sociale, justement parce que bien souvent les syndicats ont tendance à prendre comme allant de soi cette expression. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'usage du dialogue social est beaucoup plus disputé. Parce que là, ça renvoie effectivement à des cultures syndicales, à des cultures politiques assez différentes. La promotion du dialogue social, comme le disait Dominique Andolfato, ça vise aussi à résumer un projet de réforme des relations de travail qui entend en quelque sorte dépasser ce que beaucoup de réformateurs ou de technocrates présentent comme une espèce d'exceptionnalité française, d'un régime de relations de travail qui est régulé avant tout par la lutte des classes, lié à l'hégémonie d'une CGT sous influence communiste, etc. Et du coup, mettre en avant l'idée de dialogue social, c'est laisser entendre que d'autres acteurs plus disposés à négocier plutôt qu'à s'affronter et à dire non devraient être davantage mis en avant. Même s'il y a beaucoup d'illusions derrière cette opposition, beaucoup de schématisme, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais en réalité, tous les syndicats négocient, tous les syndicats dialoguent et tous les syndicats sont amenés aussi à engager des rapports de force.
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que quand on parle de démocratie sociale ou de dialogue social, ce sont des expressions qui recouvrent des réalités différentes selon qui les emploie. Et ce qu'on constate aussi, Carélien, c'est qu'on parlait déjà en fait de démocratie sociale dès le début du XXe siècle.
Oui, alors dans le cadre d'une recherche qui est en cours, j'ai fait un peu moi aussi de recherche socio-historique sur les usages de ce terme-là, pour le coup. Et la notion de démocratie sociale, en fait, elle a renvoyé à différentes périodes à des significations un peu différentes. En fait, on repère dès le milieu du 19e siècle la notion de démocratie sociale, mais plutôt sous l'angle de la République démocratique et sociale. Les démoxos, c'est l'aile gauche du Parti républicain au moment de la Seconde République. C'est donc plutôt l'aile républicaine qui est proche du mouvement ouvrier. Mais très vite, en fait, la référence à la démocratie dans le mouvement ouvrier, elle va être un peu mise à distance. À la fois parce que l'instauration précoce du suffrage universel en France fait que la notion de démocratie, c'est plus forcément indiscriminant, parce parce qu'il y a tout un tas de partis bourgeois, entre guillemets, qui vont se revendiquer aussi de la démocratie. Puis aussi, il y a la répression très sanglante de la Commune de Paris, qui amène en particulier les révolutionnaires, les syndicalistes révolutionnaires de la CGT, à être extrêmement méfiants par rapport à ce qu'ils nomment le démocratisme, et qui oppose le syndicalisme à la démocratie. Et en fait, la notion de démocratie sociale, à partir de ce moment-là, elle est réappropriée dans des espaces différents, mais en fait, moi, je l'ai repéré, par exemple, autour d'un mouvement politique qui se constitue autour du socialiste indépendant Aristide Briand et d'un périodique qui s'appelle la démocratie sociale dans les années 10, autour du Sillon de Marc Sangnier, ou dans les réflexions du juriste gaulliste René Capitan à la Libération. Le point commun de toutes ces réflexions autour de la démocratie sociale, c'est d'essayer de porter une alternative non marxiste, on pourrait dire, non révolutionnaire à la CGT, en fait, au mouvement ouvrier.
Et puis cette expression qui va être reprise aussi par Jaurès un peu plus tard.
Alors, pour le coup, les usages qu'en fait Jaurès s'inscriraient plutôt dans la continuité de cette première époque de la démocratie sociale des républicains de 1848, hein, dans l'idée que finalement la démocratie sociale, c'est l'aboutissement de la démocratie politique. Et il y a cet usage qui s'est maintenu dans le mouvement socialiste, mais c'est vrai que par rapport par exemple à l'Allemagne, où la social-démocratie, qui est en fait l'équivalent en allemand de la démocratie sociale en France, est devenu le terme pour qualifier le mouvement socialiste, en France, il n'y a pas eu cet usage aussi fréquent de la démocratie sociale dans le mouvement socialiste.
Et cette démocratie sociale, Dominique Andolfato, va prendre un nouveau sens encore après la Seconde Guerre mondiale, lequel ?
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, le terme qui domine, c'est plutôt démocratie économique et sociale. C'est en lien avec notamment le Conseil national de la Résistance, le programme de ce Conseil national de la Résistance, toute une série de réformes qui visent à essayer de réduire les injustices sociales et économiques de la période antérieure. Et donc, il y a l'idée de faire des réformes plus ou moins hardies pour combattre les injustices sociales. Et également rétablir une certaine justice. Par exemple, il y a l'idée de nationalisation qui va traduire concrètement ce programme. Donc l'idée d'exproprier un certain nombre de capitalistes pour confier les entreprises directement au peuple à travers la nationalisation. Il y a l'idée également que les salariés les travailleurs seront consultés concernant leurs conditions de travail, concernant voir la gestion de leur entreprise. Tout ça sera introduit également dans le préambule de la Constitution de 1946. Donc, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus démocratie économique et sociale. Et je dirais quand même que le sens est assez différent. On vise moins les relations de travail dans l'entreprise, ou la question de la gestion étroitement de l'entreprise, que plus un projet politique qui a une dimension économique et sociale.
Alors justement, revenons aux conditions de travail dans l'entreprise.
Il y a pour nous la nécessité d'avancer sur deux sujets qui sont centraux, à la fois pour la vie des entreprises et pour la vie des salariés eux-mêmes. C'est de progresser en matière de citoyenneté au travail. Il n'est pas possible que dans notre pays, la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise. Les salariés créent par leur production la richesse créée par le travail. Il faut que cette reconnaissance soit effective, il faut qu'ils puissent avoir leur mot à dire à travers l'exercice de leur travail. Et le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que le dialogue social soit enfin porteur de progrès social dans notre pays.
Voilà, on entendait la syndicaliste Agnès Leblot dans une vidéo de la CGT réalisée le 21 octobre 2014. C'est une autre vision de la démocratie sociale que les syndicats de salariés ont proposée, une vision qui s'appuie et qui renvoie à la citoyenneté des travailleurs, Carel Lion.
Oui. En fait, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment dans tout un travail d'élaboration, en particulier du côté de la CGT. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, dans le cadre d'un processus plus large, un peu de redéfinition de la stratégie syndicale de la CGT, on voit cette organisation effectivement mettre l'accent sur la notion de citoyenneté des travailleurs, de se réapproprier cette idée, parce que l'expression que il n'est pas possible que la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, elle fait référence au discours de Jean Auroux au moment du vote des lois Auroux de 82. Donc c'est une tradition qui est plus ancienne que ça. Mais effectivement, il y a cette idée de réancrer le syndicalisme, aussi parce qu'il est question d'une crise de légitimité des syndicats, dans son contact étroit avec les salariés. Et plus concrètement, un des enjeux qui se pose à la CGT dans les années 90-2000, c'est en raison justement du développement de la négociation d'entreprise et des règles de négociation collective qui faisaient qu'à l'époque, dès lors qu'un syndicat était représentatif, il pouvait signer un accord d'entreprise, qu'il soit minoritaire ou majoritaire dans l'entreprise, la CGT va remettre en avant la revendication de l'accord majoritaire. C'est-à-dire que tout accord négocié à l'échelle d'une entreprise puisse, pour qu'il soit validé, soit signé par des organisations représentatives d'une majorité des salariés. Donc ça, ça fait partie des éléments que met en avant la CGT, mais ce qui est intéressant dans la réflexion cégétiste à l'époque, c'est que cette idée de l'accord majoritaire s'inscrit dans une vision plus large de la citoyenneté sociale, qui fait écho aussi finalement à cette idée de la démocratie économique et sociale dont parlait Dominique Andolfato, parce qu'il s'agit de, en quelque sorte, donner de nouveaux droits aux salariés, de leur permettre de développer leur capacité d'action, de leur pouvoir sur leur propre travail. Et donc ça passe par une reconnaissance accrue du syndicalisme, ça passe par la remise en route des élections, par exemple des administrateurs aux caisses de sécurité sociale, ce qui était un des fondements de cette démocratie sociale de la libération. Ça passe par la lutte contre la répression et la discrimination à l'encontre des syndicalistes, etc., etc.
Mais alors la question qui se pose, c'est quelle est la vision de la démocratie sociale du côté des syndicats de patronat ? Est-ce que cette vision, c'est de dire qu'il faut peut-être mieux négocier avec les syndicats de salariés plutôt qu'avec l'État, Carélion ?
Alors, et justement, la raison pour laquelle on voit réémerger la notion de démocratie sociale dans les années 2000, c'est qu'il y a vraiment une espèce de lutte idéologique, on pourrait dire, entre le patronat et les syndicats, ou en particulier entre la CGT et le MEDEF, pour le coup, entre finalement une CGT qui va défendre l'idée de démocratie sociale en l'articulant à l'idée de citoyenneté des salariés, et le patronat qui va défendre l'idée de la démocratie sociale en l'articulant davantage à la notion de dialogue social, et ça renvoie au projet du MEDEF de la toute fin des années 90, début des années 2000, en faveur de la refondation sociale, de développer ce qu'ils appellent une sphère autonome du social à l'écart de l'État, à l'écart de la régulation étatique. Donc il y a cette espèce de conflit justement sur le sens à donner à cette expression. D'une certaine manière, du côté syndical, il y a cette idée que renforcer la démocratie sociale, ça appelle justement une intervention accrue aussi de l'État pour permettre aux salariés de se doter de nouveaux droits, etc. Mmh. Alors que du côté patronal, développer la démocratie sociale, ça signifie au contraire gagner en autonomie dans la sphère des relations contractuelles au détriment des normes législatives qui sont produites par la puissance publique.
Dominique Andolfato, cette question de la place de l'État, elle est centrale pour vous aussi ?
Oui, je ne suis pas sûr que l'État ait une place si centrale sur la démocratie sociale dans les années 2000. En fait, cette idée de démocratie sociale dans les années 2000, c'est avant tout, comme l'a très bien dit Carélion, c'est avant tout les syndicats, et notamment la CGT, la CFDT, qui portent cette idée-là. Le patronat n'y est pas très... ou les patronats ne sont pas très... ils sont plutôt favorables à une refondation sociale, c'est-à-dire il faut que les affaires concernant les travailleurs et les employeurs soient prises en charge par les travailleurs et les employeurs. L'État doit sortir de cette affaire-là. Donc c'est plutôt la conception de... il parle d'ailleurs, me semble-t-il, pas tellement de démocratie sociale, plus de refondation sociale, ce qui n'aboutira pas. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il n'est pas non plus pour cette fameuse réforme qui officiellement va rénover la démocratie sociale en 2008.
Alors rappelez-nous en quoi consiste cette réforme de 2008.
Cette réforme, elle refonde les règles de représentativité syndicale. On s'interrogeait sur cette représentativité syndicale. Jusqu'alors, cette représentativité syndicale, c'est-à-dire, c'est quoi la représentativité syndicale ? C'est qu'est-ce qui permet à un syndicat de s'asseoir face à l'employeur d'une entreprise, d'une branche d'activité, et de négocier avec lui les conditions de travail dans telle entreprise, dans telle branche d'activité ? Qu'est-ce qui lui permet de s'asseoir ? Jusqu'à cette réforme, cela était inscrit dans le Code du travail. On avait considéré, une fois pour tout, dans les années 60, et même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ça avait été reformulé, décidé qu'il y avait 5 centrales qui pouvaient s'asseoir en face du patronat, que ces centrales aient dans la branche ou dans l'entreprise des adhérents ou pas. Et donc, ça avait conduit à certains désajustements. Il y avait des syndicats qui étaient considérés comme représentatifs parce que c'était inscrit dans le Code du travail, mais qui, en fait, sociologiquement, n'avaient pas d'adhérents, etc.
Donc cette réforme était nécessaire, selon
vous ? Donc on a fait une réforme, on a décidé d'asseoir cette représentativité sur les résultats des élections professionnelles. Donc ça va un peu changer la donne et cette réforme a été voulue au départ par la CGT et la CFDT. Le patronat s'y ralliera.
Carélien n'a pas l'air tout à fait d'accord.
Je suis pas complètement d'accord, parce que cette réforme, c'est quand même le produit d'une négociation collective qui n'a pas abouti, puisqu'il n'y avait pas de majorité syndicale pour la signer, mais qui s'est quand même traduite par une position commune. Et pour le coup, justement, dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur les façons différenciées du patronat et du syndicalisme d'appréhender la démocratie sociale, ça renvoie aussi à des intérêts différents à voir changer les règles de la négociation d'entreprise. Du côté syndical, il y a cette idée de, avec la règle de l'accord majoritaire notamment, renforcer le contrôle syndical sur la négociation collective pour éviter que ce que faisaient auparavant les organisations patronales, des accords minoritaires soient signés avec des petits syndicats, comme je le disais. Mais du côté patronal, il y a aussi un souci très important qui renvoie à une réorientation stratégique du patronat depuis la fin des années 70, qui est de promouvoir la négociation d'entreprise, alors qu'auparavant le mouvement patronal y était catégoriquement opposé, qui est de renforcer la légitimité de ce niveau de négociation. Et quoi de meilleur, justement, pour renforcer la légitimité de ce niveau de négociation que de lui donner une légitimité démocratique. Et donc d'asseoir la représentativité des acteurs appelés à négocier au sein de l'entreprise sur le vote des salariés qui, en quelque sorte, leur délèguent le mandat de la négociation.
Dominique Andelfato.
Je ne veux pas pinailler, mais jusqu'à l'élection de Laurence Parisot à la tête du MEDEF, le patronat, pour lui, refonder la représentativité syndicale, c'était pas un sujet. C'est un non-sujet. C'est pourquoi, d'ailleurs, la réforme n'a pas été faite sous Chirac, parce que c'était déjà une revendication à l'époque, sous le second mandat de Jacques Chirac. Il faudra l'élection de Sarkozy, qui, lui, se rallie à cette idée d'une refondation, d'une refondation des règles de représentativité syndicale pour que le MEDEF et sa nouvelle présidente Laurence Parisot se convertissent à son tour à cette idée. Mais pour le MEDEF, c'était pas une revendication.
Très rapidement, Carlion.
Tout à fait d'accord. En fait, ce qui est bien avec la discussion, c'est que ça permet de clarifier les choses. Ce que ça révèle, c'est que le patronat était divisé en son sein. Et il a fallu effectivement des changements à la tête de l'État et puis aussi l'histoire de la caisse noire de l'UMM pour affaiblir un des acteurs qui était le plus opposé justement à cette réforme des règles de représentativité, en particulier parce que dans la métallurgie, justement, le patronat avait l'habitude de négocier avec des acteurs qui étaient minoritaires pour que cette réforme puisse être engagée.
Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment cette démocratie sociale s'exprime sur le terrain, quel écart y a-t-il de la théorie à la pratique, Dominique Andelfato, que peut-on dire aujourd'hui du fonctionnement du dialogue social?
Ce fonctionnement, tout dépend les branches d'activité, les entreprises. Enfin, il y a ce dialogue social, il fonctionne souvent assez difficilement. Parce que d'une part les syndicats qui sont censés donc représenter les salariés dans les entreprises sont souvent relativement faibles dans l'entreprise, assez peu d'adhérents, des équipes qui sont souvent assez réduites.
On va revenir effectivement au manque d'adhérents.
Et donc du coup, quand on se lance dans des négociations avec l'employeur et qu'on a derrière soi des soutiens relativement maigres, ça augure mal de la suite de la négociation.
Mais il y a des secteurs d'activité ou des entreprises dans lesquels le dialogue social fonctionne.
Alors, il faut également faire très attention parce qu'en fait, comme le disent parfois certains juristes, et notamment un juriste comme Antoine Mattei, par exemple, à Montpellier, il explique que la négociation en France, c'est vrai qu'elle produit des résultats, mais parce que les employeurs, ils sont plus ou moins sommés de négocier. L'administration leur met souvent le pistolet sur la tempe, et donc il faut avoir, sur certains sujets, il faut avancer, il faut négocier, autrement l'entreprise risque d'être dans l'illégalité. Donc négocier dans ces conditions, ça ne produit pas forcément des bons résultats, c'est souvent assez problématique. Donc il faut faire très attention, on a souvent une vision un peu rose de la négociation. Dans la réalité, c'est ce que la négociation produit.
Des négociations sous la contrainte,
côté syndical, on a peu de moyens pour résister aux pressions patronales, parce que le patron vous dit, si vous ne signez pas l'accord, je ferme l'entreprise ou je vais réduire les effectifs. Donc, que l'on se positionne du côté employeur ou du côté salarié, souvent la négociation, elle est loin d'être idéale. C'est pas un
bilan assez peu positif. Carélien, vous êtes d'accord avec cette vision?
Oui. Ce qui est surprenant, c'est que notamment le ministère du Travail produit annuellement des statistiques sur la négociation collective, qui sont l'occasion pour tous les acteurs de se féliciter de l'essor du dialogue social, etc., en comptabilisant les accords d'entreprise. Mais ce que montrent les travaux, qu'ils soient d'ordre qualitatif ou quantitatif, qui peuvent être menés par la direction direction des études du ministère du Travail ou par des sociologues, c'est que effectivement le gros du dialogue social, de la négociation collective, c'est un dialogue social que certains ont qualifié de dialogue social administré. C'est-à-dire, comme le disait Dominique Andolfato, hein, c'est beaucoup de contraintes ou d'incitations, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'incitations fiscales, il y a un intérêt financier aussi aux entreprises à pouvoir s'engager dans des négociations sans obligation de résultat, mais au moins il y a évidemment la règle de négociation annuelle obligatoire depuis 82 qui ont justement institutionnalisé ce rendez-vous entre représentants des salariés et employeurs.
Mais ça produit assez peu de résultats.
Peu de résultats, et d'ailleurs, je regardais là les derniers résultats qui sont produits, il y a la DARES, donc la direction des études du ministère du Travail, a un gros dispositif d'enquête qui s'appelle Réponse, tous les 6 ans, qui permet d'interviewer des représentants des directions d'entreprise, des salariés et des représentants du personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que seulement un tiers des salariés qui ont une présence syndicale dans leur établissement considèrent que les syndicats ont une influence véritable sur la négociation. Mmh. En d'autres termes, la négociation apparaît bien souvent formelle, vide de contenu, et on fait ça parce qu'il faut effectivement répondre à des injonctions qui viennent souvent du haut à négocier.
Dominique Andolfato.
Oui, elle produit, qu'elle produit beaucoup, il y a beaucoup d'accords qui sont produits, mais en fait, quand on a des informations sur le contenu des accords, souvent c'est assez décevant parce que c'est négocié sous la contrainte et c'est souvent des accords également qui sont en retrait par rapport à des acquis qu'avaient les salariés ou des situations qui existaient, etc. Donc c'est pas le résultat est quand même le volume est là, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous.
Et alors justement, on va voir quel rôle joue là-dedans la crise du syndicalisme. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Un travail. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir? Un travail. Il faut s'appliquer, ne pas rêver, ne pas dormir. Un travail. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir? Un travail. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais supporter les ordres et les pauses café? L'heure qui compte sur moi. Moisir chez moi, me tendre là-bas, je ne sais pas. Mais un travail. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir? Un travail. Est-ce que je vais comprendre la tâche, la porter comme il m'est demandé? Ne pas suivre une pensée et m'y perdre. Ne pas fixer le nœud dans le bois. Ne pas me noyer dans ma crainte. Un travail. Souffrir de rien ou souffrir de trop. Souffrir des regards, quoi que j'en pense. Plier sous le poids du devoir et des yeux noirs. Mais sortir enfin du passé de ce que j'étais. Me tenir droit, me tenir propre. Écouter, comprendre, avancer, faire. Mais un travail. Écouter, comprendre, avancer, faire. Écouter. Il faut s'appliquer, ne pas rêver, avancer, ne pas dormir. Faire, écouter, comprendre. Un travail. Faire. Écouter, comprendre.
Un travail du chanteur-compositeur Ignatius sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur l'avenir de la démocratie sociale en compagnie de Dominique Andolfato et de Karel Lyon. Alors on va se demander maintenant quelle est la réalité de la représentativité du côté du patronat comme du côté des salariés. Commençons tout d'abord, avec les syndicats de patrons, Dominique Andolfato. Quelle représentativité aujourd'hui des syndicats du patronat?
Alors bon, je ne suis pas un expert de la représentativité patronale, mais enfin il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place depuis 2014. Il y a une loi Sapin qui a d'ailleurs été réformée un peu par la suite. Et cette représentativité des organisations patronales, elle est mesurée en fonction des adhérents, des entreprises qui adhèrent aux différentes organisations patronales. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose dans la représentativité patronale en France. Donc on sait que la plus grosse organisation, c'est le MEDEF. On a aussi l'organisation qui s'appelle maintenant la CPME, autrefois la CGPME, donc pour les petites et moyennes entreprises. Et puis également, on a l'UPA, qui a d'ailleurs un nouveau sigle qui m'échappe à l'instant. Enfin,
L'UDP.
C'est l'UDP, qui est donc les entreprises artisanales et également les professions libérales.
Mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que si on prend toutes les organisations patronales, ça représente environ 15% environ de l'ensemble des entreprises françaises. Alors on fait mieux comme représentativité.
Oui, c'est relativement faible, mais si on s'interroge sur la représentativité des organisations syndicales, et si on faisait le même calcul sur les effectifs, combien ils ont d'adhérents par rapport à la population salariée, on trouverait un pourcentage encore plus faible.
Sur les syndicats de patronat, Carignan.
Non, mais vous faites une remarque tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'en fait, la représentativité des organisations patronales est finalement aussi faible en termes quantitatifs que celle des organisations syndicales de salariés. Pourtant, le débat sur la représentativité, la controverse sur la représentativité pendant des années et des années a porté uniquement sur les syndicats. Et pour que finalement aboutisse une réforme de la représentativité du mouvement patronal, il a fallu effectivement un certain volontarisme de la part des pouvoirs publics, parce que ce volet était normalement prévu dans la suite normale de la réforme de 2008 dont on a parlé tout à l'heure. Et autre élément qui témoigne là encore d'une certaine asymétrie entre les acteurs de la démocratie sociale, c'est que les organisations patronales ont directement participé via la négociation collective à la définition des règles de la représentativité syndicale qui ont été transcrites dans la loi de 2008, alors que les syndicats n'ont pas été, qui étaient partisans du fait que la représentativité patronale soit basée sur les élections, comme pour eux finalement, qu'il y ait une espèce de symétrie, les syndicats de salariés n'ont pas du tout été entendus dans cette histoire, et l'État s'est basé sur une position commune, mais qui était limitée aux organisations patronales pour effectivement définir la représentativité de ces organisations dans une logique un peu du serpent qui se mord la queue, puisqu'il s'agit de calculer le nombre d'entreprises qui sont adhérentes par rapport au total des entreprises adhérentes. Donc ça renvoie pas, s'il n'existait pas justement les travaux comme ceux que vous avez cités qui permettent d'évaluer le nombre d'entreprises adhérentes à des organisations patronales, on ne saurait en réalité rien de la réalité de la représentativité sociale des organisations patronales.
Alors justement, partons maintenant du côté des syndicats de salariés. En 1984, le cinéaste Chris Marker réalise un film à la demande de la CFDT. Dans ce court-métrage intitulé 2084, il imagine le syndicalisme de la fin du XXIe siècle. Et parmi ces trois hypothèses, c'est la plus sombre que l'on va entendre ici.
L'État est une machine nourricière, bien huilée, et le syndicat est simplement le mécano de cette machine, celui qui détecte les petits accrocs, les petites pannes, et qui ne peut même pas imaginer que la machine serve à autre chose. En fait, de syndicat, il n'a plus que le nom. Le véritable syndicalisme est mort à l'aube de l'an 2000. Quant à force de se tromper d'adversaires, catégorie contre catégorie, nationaux contre immigrés, hommes contre femmes, organisations contre organisations, les héritiers du mouvement ouvrier ont fini par perdre définitivement la confiance d'une classe où ils étaient déjà minoritaires. Les boulons qui volaient dans les ateliers de l'hiver 1984 ont porté loin, ils ont fini par fracasser l'image même de l'organisation syndicale. Les technototalitaires n'ont eu qu'à ramasser les morceaux.
Le véritable syndicalisme est mort à l'aube des années 2000. Une réaction à cet extrait que l'on vient d'entendre, Carignan.
Ben, ça fait écho à un discours qui a effectivement été très répandu sur l'institutionnalisation du syndicalisme, qui serait devenu des machines complètement coupées de leur base sociale, sans aucune représentativité réelle auprès des salariés, etc. Ce que ça pointe, c'est qu'effectivement, en France, le régime français de représentation des travailleurs, il repose sur un important soutien de l'État. Et les syndicats ont bénéficié de garanties institutionnelles importantes. Mais pour autant, le droit syndical, il est aussi fortement ancré dans les entreprises. Voilà, avec par exemple le fait que pour les représentants du personnel, les délégués syndicaux, etc., quand ils sont désignés, leur temps de représentation, il est considéré comme du temps de travail. Et donc ça produit une chose, c'est que même si effectivement il y a toute une partie du mouvement syndical qui est en gros, qui fréquente avant tout les sommets de l'État, parce que ça fait partie du boulot de professionnel du syndicalisme quand on est un représentant de fédération ou de confédération, de négocier, de rencontrer les cabinets, les ministres, les interlocuteurs patronaux, etc. Pour autant, le syndicalisme, il conserve un ancrage réel dans le monde du travail. Moi, je suis vraiment très méfiant par rapport à une analyse qui se limiterait à la valeur faciale du chiffre de 11% de syndiqués, puisque c'est le chiffre du nombre de syndiqués. En réalité, la présence syndicale est est assez répandu dans les entreprises. Et les.
Alors, d'où vient ce chiffre? Pourquoi le.
Ah ben, le chiffre est réel, hein, c'est le chiffre effectif de salariés membres d'une organisation syndicale. Simplement, à la différence d'autres pays, en France, être syndiqué, ça n'apporte pas d'avantage, parce que dans certains pays, il faut être syndiqué pour bénéficier des accords collectifs, ce qui n'est pas le cas en France. Ça peut au contraire apporter des inconvénients, parce qu'il y a des phénomènes de discrimination, de répression, qui sont d'ailleurs en train d'être un petit peu étudiés par le défenseur des droits. On aura des résultats là-dessus à l'automne. Donc la syndicalisation, elle ne dit pas tout de la puissance des syndicats dans notre pays. Il faut regarder la capacité de mobilisation des organisations syndicales, il faut regarder leur capacité d'influence sur le pouvoir politique, dans les politiques publiques. Ce qui est certain, c'est que sur tous ces plans, on assiste à un déclin du pouvoir syndical, mais en tout cas, on ne peut pas le réduire au pourcentage de salariés syndiqués.
Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Andolfato? On ne peut pas réduire à ce chiffre de 11% le pouvoir des syndicats en France aujourd'hui?
Non, il faut bien essayer de, si on ne peut pas le réduire effectivement à un chiffre, il faut même bien essayer de le mesurer à l'aune de certains indicateurs. Donc le taux de syndicalisation est quand même un de ces indicateurs. Sa mesure est difficile. Personnellement, je récuse ce chiffre de 11%. J'ai produit un article qu'on peut trouver en ligne sur cette construction de chiffre de 11%.
Quel chiffre donneriez-vous?
7 ou 8%. Bon, c'est une querelle un peu... on va dire que je chinoise un petit peu. Enfin,
Mais sachant que cette désaffection des syndicats, elle a démarré à la fin des années 60. Et on a assisté à une dégringolade dans les années 80.
C'est post-68, oui, enfin, curieusement, c'est au moment où le syndicalisme voit sa place reconnue officiellement dans l'entreprise qu'il va commencer à décliner.
Et comment on l'explique?
Pour différentes raisons, c'est un peu, il y a toute une série de facteurs qui vont jouer. Déjà, sans doute des facteurs culturels, peut-être la montée d'un certain individualisme post-68. Le fait également que les individus ont moins besoin d'être en quelque sorte maternés ou pris en charge par des organisations collectives comme les partis politiques classiques ou les syndicats classiques. Il y a des demandes qui sont plus individualisées. Et puis également, quand même, dans l'extrait du film qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait cette idée que l'État devenait une machine nourricière pour les syndicats. Et c'est vrai, par exemple, un dispositif qui a été mis en place, j'ai évoqué tout à l'heure une loi de 2014, loi Sapin, qui est relative à la représentativité patronale, mais qui a introduit également un financement du syndicalisme qui est basé à la fois sur des aides publiques et sur un prélèvement sur les salaires.
Là où auparavant, les syndicats étaient financés exclusivement par les cotisations.
Par les cotisations. Ça induit le fait que finalement une partie du syndicalisme va pouvoir fonctionner sans avoir besoin de ces cotisations puisque il y a une espèce de financement qui provient directement de l'État. Donc c'est pas sans effet pervers.
Carélian, sur les origines de cette crise du syndicalisme.
Oui, alors je pense que les origines de cette crise, il faut d'abord les retrouver dans la désindustrialisation et l'essor du chômage de masse. Enfin, là pour le coup, il y a quand même quantité de travaux de sociologues, là encore d'ordre qualitatif ou quantitatif, qui montrent que les facteurs déterminants de la syndicalisation sont des facteurs d'ordre structurel, socio-économique, la taille des établissements, le fait qu'on soit plutôt dans l'industrie ou plutôt dans les services, le fait qu'il y ait déjà une présence syndicale, etc. Donc le statut d'emploi aussi, selon qu'on est fonctionnaire ou en CDI ou bien en CDD. Et donc quand vous avez dans les années 60-70 une tendance au démantèlement des bastions industriels, que ce soit le textile d'abord, la sidérurgie ensuite, l'automobile après, qui étaient des bastions du mouvement syndical, que vous avez le nombre de chômeurs qui explose. Tous ces éléments se conjuguent pour, en quelque sorte, dissuader encore davantage les salariés de rejoindre une organisation syndicale. Quand par-dessus ça se développent les statuts d'emploi précaires, où vous êtes en CDD ou en intérim, etc., tout montre que tous ces statuts d'emploi précaires sont peu propices à la syndicalisation. Donc on a une conjonction de faits qui provoque ce recul de la syndicalisation.
Mais ça n'explique pas que le recul soit plus fort en France que dans les autres pays européens.
Mais il est plus fort en France que dans les autres pays européens parce que les logiques de la syndicalisation ne sont pas les mêmes, précisément. Parce que si vous regardez la Belgique ou les pays scandinaves, pour le coup, la syndicalisation, elle est nécessaire, par exemple, pour bénéficier de l'assurance chômage. De ce point de vue, la comparaison n'a pas de sens, en quelque sorte.
Dominique Andolfato, sur cette exception d'une forte, d'un fort recul en France.
Ou évoquer des raisons économiques liées au tissu industriel. Mais il ne faut pas laisser croire non plus que dans les années 60 ou dans les années 50, voire au moment du Front populaire, où les taux de syndicalisation étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, la condition du travailleur était idéale. Je ne pense pas qu'on puisse connecter comme cela, aussi simplement que cela, la condition du travailleur et le taux de syndicalisation. Il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Bon, rappelons également, toute chose étant par ailleurs égale, qu'aujourd'hui le nombre de salariés est beaucoup plus important que dans les années 60 ou 70, et pourtant on a moins de syndiqués.
Est-ce qu'il faut mettre en lien cette défiance à l'égard des syndicats avec la défiance envers les partis politiques à laquelle on assiste aujourd'hui, selon vous, Karel Lion?
En partie, oui, parce qu'il y a effectivement, là pour le coup, je rejoindrai Dominique, hein, il peut y avoir vis-à-vis des formes de représentation en général une certaine défiance. Ça fait partie un peu du sens commun, c'est dans l'air du temps de toute façon. Mais ce qu'on regarde, quand justement, moi je travaille de manière qualitative, donc je travaille sur des monographies d'entreprises en faisant des entretiens avec des militants, etc. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de salariés qui peuvent être défiants vis-à-vis du syndicalisme parce qu'ils rencontrent au cours de leur trajectoire professionnelle un accident, un incident avec l'employeur, etc., peuvent complètement changer de regard sur l'action syndicale et découvrir l'intérêt de se syndiquer. Donc il y a des logiques de défiance qui renvoient à des transformations d'ordre socioculturel aussi, parce que l'information circule différemment, le syndicat n'est pas la seule ressource. Quand on veut avoir de l'information juridique, on peut aller voir sur Internet, etc. Il y a des choses comme ça qui existent, bien évidemment. Et puis il y a aussi une espèce de division entre des secteurs où le syndicalisme va rester fort et puis des secteurs où le syndicalisme ne réussit pas à s'implanter. Et du coup, c'est auprès de ces salariés qui ne côtoient pas les syndicalistes que la défiance à l'égard du syndicalisme peut être la plus forte. Et finalement, quand on regarde un mouvement comme celui des Gilets jaunes, il y a tout un tas d'études qui sont en cours aujourd'hui, et ce que montrent les collègues sociologues qui ont fait du travail de terrain là-dessus, c'est que une bonne partie des salariés, parce qu'ils sont nombreux, qui sont investis dans ce mouvement, sont plutôt des salariés qui sont isolés sur leur lieu de travail, dans des très petites entreprises sans présence syndicale, etc. Et du coup, des salariés pour qui le recours syndical avait rien d'évident. Et voilà, ça participe aussi, si vous voulez, de cette représentation commune de syndicats qui sont coupés d'une partie de la conflictualité.
Je voudrais vous entendre, Dominique Andolfato, sur un point qui a été soulevé par Karel Lion. Est-ce que pour vous, l'institutionnalisation du syndicalisme et le fait qu'il bénéficie de plus en plus des subventions publiques, ça a contribué à couper ou ça a accéléré cette coupure qui est souvent critiquée entre la base et le sommet?
Alors,
au sein des syndicats,
ça y a probablement contribué, mais il faut bien voir que le principal financeur du syndicat aujourd'hui, c'est pas tant l'État ou les pouvoirs publics, ce sont les entreprises elles-mêmes. Il y a beaucoup d'accords dans les entreprises. On parlait dans la première partie de cette émission de négociations collectives. Eh bien, il y a parmi les accords qui produisent un nombre de choses, il y a beaucoup d'accords qui prévoient des aides des entreprises, accords tout à fait légaux. Autrefois, de l'argent circulait dans des valises, etc., de l'employeur vers le syndicat. On y a fait allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tout à fait légal. Il y a des accords dans beaucoup d'entreprises, notamment les plus grandes. Les entreprises sont aujourd'hui les premiers financeurs du syndicat. Il y avait eu un rapport d'ailleurs on pourrait dire un pseudo rapport parlementaire sur le sujet qui était le rapport Perruchot. Je dis pseudo parce que ce rapport n'avait pas été publié finalement, mais il avait été préparé comme s'il allait être publié, qui avait montré ces aides de l'entreprise vers les syndicats, qui étaient très importants. Et probablement que ça a changé un peu la nature du syndicalisme. On le disait déjà tout à l'heure, les cotisations sont moins utiles. Par contre, il faut, ces accords sont très utiles pour le financement du syndicalisme, et probablement que ça a engendré, alors même si on ne peut pas généraliser, un certain type de syndicalisme, de professionnel qui n'est pas dont la priorité n'est pas forcément de recruter de nouveaux adhérents, et donc ça peut avoir un cercle vicieux sur le syndicalisme.
Alors il y a effectivement la baisse des adhésions dont on a parlé, mais ce qu'on constate aussi, c'est que l'abstention aux élections professionnelles a explosé. Karel Lion, abstention qu'il faut peut-être mettre en lien aussi avec le fait qu'il y a un manque de transparence importante autour de ces élections.
Alors, l'abstention est surtout notable dans la fonction publique, parce que entre le début des années 2000 et aujourd'hui, dans les trois fonctions publiques, le taux de participation a perdu 20 points. Donc là, il y a vraiment une baisse assez sensible. La baisse est moins sensible dans le secteur marchand, mais à la condition de nuancer tout de suite en disant que dans le secteur marchand, on évalue le taux de participation uniquement au niveau des entreprises qui ont effectivement organisé des élections professionnelles. C'est-à-dire que quand est publié par exemple la mesure de la représentativité syndicale, qu'on nous annonce un taux de participation de 42%, en réalité c'est un calcul qui fait la moyenne cumule la participation aux élections TPE, qui sont des élections sur sigle, et des élections professionnelles dans les entreprises, où en moyenne, quand vous avez des élections dans ces entreprises, le taux de participation est autour de 60%.
Donc on peut imaginer que l'abstention a explosé partout, autant dans le secteur marchand que dans le secteur de la fonction publique.
Non, je dirais pas qu'elle a explosé. Je dirais qu'elle a augmenté dans le public et qu'elle a tendance à augmenter aussi dans le privé. Pour des raisons différentes, il y a des collègues qui travaillent plus sur la fonction publique qui montrent que notamment le fait d'avoir assis la représentativité syndicale sur le vote au comité technique, alors qu'auparavant les élections cardinales dans la fonction publique, c'était les commissions administratives paritaires, ça a eu aussi des effets parce que les CAP, c'était vraiment des structures qui étaient perçues par les agents comme ayant du pouvoir sur leur carrière, etc. Alors que les CT sont perçues comme des instances qui servent pas à grand chose quand une décision de réforme est portée par les cadres.
Donc un certain nombre d'explications techniques. Quel regard portez-vous sur cette abstention?
Là, ce serait
Dominique
peut-être le moment d'avoir un petit coup de colère, parce qu'en fait, on a dit tout à l'heure que la représentativité syndicale avait été refondée sur les élections professionnelles, et en fait, ces élections professionnelles, elles sont pas publiées. Où très peu de choses est publiée. Comme l'a dit Carrel, il n'y a qu'une mesure nationale qui est publiée. C'est comme si, par exemple, pour l'élection présidentielle, on n'avait que le résultat national. Mais dans votre commune où vous votez, ou dans votre bureau de vote, c'est difficile, où le résultat est assez confidentiel. Donc, on peut s'étonner que ces résultats ne soient pas publiés, qu'on ne puisse pas y accéder, qu'on ne puisse pas savoir, par exemple, dans telle branche d'activité, comment est-ce que ça vote, est-ce qu'il y a de la participation, est-ce qu'il n'y en a pas.
Donc, on manque beaucoup d'informations.
On a peu d'informations. On n'a qu'une donnée nationale. Et il faut faire avec. La mesure de représentativité, elle s'appuie aussi, par exemple, dans des élections qui ont lieu dans le secteur de l'agriculture. Et bien, par exemple, le ministère de l'Agriculture ne publie pas au plan national ses résultats. Personnellement, pour une étude, j'ai essayé de les contacter. On n'avait aucune réponse. Les données ne sont pas publiées. Il y a un manque de transparence sur ces élections qui sont pourtant à la base de cette démocratie sociale.
Et cela, alors même qu'il y a des changements importants qui sont en cours. On assiste à une recomposition du paysage syndical. La CFDT est devenue le premier syndicat au niveau national, dépassant la CGT.
Vous savez, on a fait un sondage auprès des salariés des TPE l'année dernière. Et qu'est-ce qu'ils disent les salariés des TPE? Qu'ils ont effectivement une très mauvaise image du syndicalisme et qu'ils ne veulent pas le voir chez eux, justement parce qu'ils assimilent le syndicalisme à la contestation. Voilà, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est la grève, c'est les drapeaux rouges, c'est les fumigènes. Donc ça, ils n'en veulent pas dans leurs entreprises. En revanche, quand on leur dit « Mais est-ce que vous souhaitez que le syndicalisme disparaisse parce que ça sert à rien ?» Ils disent « Ah, pas du tout, c'est extrêmement utile !» Parce qu'ils ont le sentiment confus que le syndicalisme et les syndicats les protègent, mais simplement, ils ont peur d'une relation conflictuelle chez eux. Donc moi, je pense que s'il y a une chose qu'il faut changer, c'est effectivement cette image du syndicalisme français, alors même que l'organisation syndicale majoritaire maintenant est une organisation dite réformiste, qui n'est justement pas dans la contestation, qui est plutôt dans la proximité avec les salariés, dans la construction de propositions, etc. L'image ne s'est pas encore suffisamment transformée du syndicalisme français.
On entendait Véronique Descac sur France Culture le 24 avril 2018. Elle était alors numéro 2 de la CFDT. Carlion, est-ce que vous diriez qu'on assiste à un rejet de ce syndicalisme de contestation incarné par la CGT? Et sinon, quelle autre raison explique, selon vous, ce recul de la CGT?
Il y a un petit paradoxe dans les propos qu'on vient d'entendre, c'est que la responsable de la CFDT nous dit que les salariés des TPE rejettent le syndicalisme de contestation, sauf qu'au résultat des élections TPE, la CGT, qui est évidemment pointée derrière ce syndicalisme de négociation, est 10 points devant la CFDT. Donc ça prouve que, en fait, il y a une limite à vouloir utiliser les élections professionnelles comme une mesure de l'opinion salariale. Et moi, de mon point de vue, l'analyse que je développe avec des collègues, c'est plutôt de dire que les résultats des élections professionnelles nous donnent moins à voir les fluctuations de l'opinion salariale. Sous-entendu, il y aurait un basculement d'un syndicalisme de contestation vers un syndicalisme de dialogue, tout simplement parce que ce que ça documente plutôt, c'est les capacités différenciées d'organisation et les ancrages différenciés des organisations dans le monde du travail. Les logiques des élections élections, Dominique le disait, les élections professionnelles, c'est une myriade d'élections dans les entreprises. Donc chaque scrutin peut avoir une logique différente. Chaque équipe syndicale porte une logique différente. Donc ça ne veut rien dire les étiquettes globales.
La CGT a eu historiquement un ancrage ouvrier. C'est aussi ce qui explique voilà, son recul
alors
aujourd'hui.
Après, un autre élément important, effectivement, c'est que du côté de la CGT, on a une organisation qui était avant tout, et qui est toujours avant tout, implantée dans les couches les plus modestes du salariat, alors que la CFDT, par exemple, a une représentativité plus homogène dans les différentes catégories du salariat. Et ça se traduit aussi par une capacité de performance électorale plus forte. Une CFDT aussi qui, du point de vue de ses structures, s'est donné les moyens d'avoir une présence beaucoup plus systématique dans les élections professionnelles, alors que la CGT reste une anarchie plus ou moins organisée, pour reprendre les propos d'une sociologue qui avait travaillé sur son fonctionnement interne. Donc il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent de montrer, comme d'ailleurs dans les scrutins politiques, que en réalité, la dimension d'expression d'une opinion, elle doit toujours être médiée par tout un tas d'autres facteurs.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission, mais quelle est votre interprétation?
En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir une analyse fine, parce qu'il n'y a pas de transparence sur le détail des résultats de ces élections. On n'a pas le ministère du Travail ou le ministère de l'Agriculture, qui sont tous les deux concernés, ne publient pas de données suffisamment précises, ou parfois même ils ne publient aucune donnée pour qu'on puisse analyser les choses. Bon, par ailleurs, par exemple, quand on passe l'élection des TPE, que c'était l'objet du commentaire qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des élections, il y a 7% de participation. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la plupart des gens s'abstiennent, boycottent cette élection, donc on ne peut pas tellement gloser, enfin discuter, analyser ces résultats-là. Ce qu'il faut espérer, c'est que dans une démocratie digne de ce nom, au minimum, les ministères concernés devraient publier, rendre public des données relativement détaillées.
Et alors, quelle serait la solution à cette crise de la représentativité dont on parle depuis le début de cette émission? Carré Lyon, pour conclure, vous diriez qu'il faudrait peut-être un droit syndical qui soit interprofessionnel, c'est votre proposition?
Oui, ce qu'on voit bien, c'est que la syndicalisation est plus forte quand la présence syndicale est déjà établie dans une entreprise ou une administration. Donc, on a un droit syndical qui, pour le moment, est avant tout un droit syndical d'entreprise. On a des dispositifs qui permettraient de mutualiser ça. Il me semble que développer un droit syndical interprofessionnel qui permettrait de mettre en place un mandat d'organisateur syndical qui permettrait par exemple aux représentants syndicaux, aux militants syndicaux de s'implanter dans des secteurs, de disposer de temps pour le faire ou de s'adresser aux salariés les plus précaires, ça pourrait être un vrai point d'appui pour améliorer la représentativité du syndicalisme.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du rôle joué par la famille Sackler dans la crise des opioïdes qui sévit actuellement aux États-Unis.
Oui, une crise sanitaire aux allures de pandémie organisée, puisque ce sont près de 400 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis d'une overdose aux opioïdes depuis le début des années 2000. Or, ce désastre n'a rien d'un accident. Plusieurs enquêtes médiatiques et judiciaires ont démontré qu'il avait été savamment orchestré, méthodiquement construit par la société Purdue Pharma. Ainsi, cette entreprise a commercialisé en 1995 l'oxycontine, un puissant antidouleur visant à soulager les malades incurables et les patients en fin de vie. Mais rapidement, l'entreprise mère perçoit la possibilité de démultiplier ses profits et décide de déployer une stratégie publicitaire et commerciale démesurée. Hautement addictif, le médicament est pourtant vendu comme de l'aspirine par l'entreprise qui l'écoule en immense quantité, à grand renfort de prescriptions gratuites et d'intéressements financiers. En 4 ans à peine, les ventes d'oxycontine passent de 45 millions à 1 milliard de dollars et contaminent des dizaines de milliers de patients.
L'entreprise est même condamnée pour ses mauvaises pratiques outre-Atlantique.
Oui, dès 2003, l'Agence fédérale de contrôle des stupéfiants accuse Purdue Pharma de minimiser les risques associés aux médicaments aux dépens de patients mal informés. Comme l'explique un article du Monde, l'entreprise doit même verser en 2007 une amende colossale de 600 millions d'euros pour avoir prétendu que son médicament était moins addictif que ceux de ses concurrents. Or, ce qu'il est intéressant de relever dans cette affaire, c'est que longtemps, le seul nom mis en cause dans cette crise a été celui de la firme productrice et non celui de la puissante famille qui la possède, les Sackler. On parle ainsi poliment de crise des opioïdes, éventuellement de l'oxycontine et des laboratoires Purdue, mais quasiment jamais de la famille Sackler, dont on connaît pourtant l'implication dans ce scandale sanitaire sans précédent, puisqu'elle a dirigé l'entreprise sans discontinuer depuis depuis sa fondation et n'a opéré de véritables changements dans ses méthodes qu'en 2018.
Il faut dire que la famille a mis en place une stratégie très efficace pour ne pas ternir son image.
Absolument, tout a été fait par le clan Sackler pour ne jamais être associé aux activités pour le moins douteuses de leur propre entreprise, comme si la responsabilité individuelle des dirigeants se perdait dans la responsabilité collective et diffuse de l'entreprise, comme si le nom de la firme servait à protéger celle de l'honorable famille qui la possède. Et pour cause, le nom de la famille Sackler est aujourd'hui bien plus connu pour son mécénat et son action philanthropique que pour ses activités industrielles. Il faut dire que si le camp Sackler n'hésite pas à communiquer sur les dons effectués au profit d'illustres institutions comme le musée Guggenheim ou le Metropolitan Museum, il est en revanche mutique en ce qui concerne ses activités pharmaceutiques.
Une communication à deux vitesses qui ulcère les victimes de l'oxycontine qui ont décidé de dénoncer cette stratégie.
Exactement, les actions se sont ainsi multipliées pour dénoncer ce double visage et cette dissociation d'activités particulièrement hypocrites, alors que Richard Sackler, fils de l'un des fondateurs et ancien PDG de la firme, prédisait un blizzard d'ordonnances pour enterrer la concurrence, des activistes ont décidé en février dernier de jeter une pluie de fausses ordonnances d'oxycontine devant les marches de musées new-yorkais bénéficiant d'une salle, une collection Sackler. Rappelons qu'au Louvre aussi, on retrouve aujourd'hui une aile Sackler dédiée aux antiquités orientales. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, le don et la charité sont utilisés comme des manières bien utiles de racheter ses autres péchés.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, on peut réécouter votre chronique sur franceculture.fr et en podcast. Et aujourd'hui, nous sommes exceptionnellement en partenariat avec le magazine Le Point. Bonjour Catherine Goliot.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef des hors-séries du Point et vous publiez aujourd'hui un numéro consacré aux textes qui fondent les grands débats économiques d'aujourd'hui. Alors de quel débat s'agit-il ?
Alors ils sont multiples en fait et ils s'emboîtent un peu comme des matrioshkas. Il y a celui immuable, depuis plusieurs décennies, de savoir comment stimuler la croissance. Faut-il privilégier l'investissement et la production, comme le pensent les penseurs libéraux, à la suite de Adam Smith, Jean-Baptiste Say ou Ricardo ? Ou faut-il stimuler la demande, comme le pensait Keynes, ou un peu des deux. Autre question, elle aussi presque aussi vieille que les économistes, celle du rôle de l'État et de son intervention ou non dans l'économie. Pour les libéraux, l'État doit intervenir le moins possible pour ne pas peser sur les décisions des agents économiques et donc sur le marché, dont, par hypothèse, ils pensent qu'ils s'autorégulent naturellement. Ce que Walras, par exemple, a essayé de démontrer à coup d'équation. Mais les keynésiens et les socialistes, comme Karl Marx, pensent exactement le contraire. Bon, il y a d'autres débats aussi qui apparaissent aujourd'hui, du fait notamment de l'évolution du climat. Faut-il ou non continuer à se battre pour la croissance, dans l'espoir qu'elle va permettre de résoudre la crise sociale, ou au contraire, faut-il y renoncer et consacrer ses efforts à implanter un autre modèle économique qui permettra de remédier aux dégâts causés par un développement non maîtrisé ? Est-ce réaliste, économiquement et surtout socialement ? Voilà. La question est ouverte. À cela s'ajoute le problème du développement numérique et de la robotisation. Combien restera-t-il d'emplois demain ? Et lesquels ? Faut-il créer un revenu universel ?
Et dans ce hors-série, Catherine, les prises de position de certains des experts que vous avez interrogés sont parfois étonnantes. Par exemple, pour Olivier Blanchard, qui a été le chef économiste du FMI, le poids de la dette publique n'est pas si grave finalement.
Eh bien oui, et pourquoi ? Parce que, selon lui, les taux d'intérêt sont très bas et que, quand ils sont inférieurs au taux de croissance, le poids de la dette est faible. Donc pour lui, ce n'est pas la peine de s'angoisser pour notre endettement public qui attend quand même 100% du produit intérieur brut. Évidemment, c'est une hérésie pour ceux qui veulent absolument réduire les dépenses de l'État et son endettement, notamment parce qu'il n'est pas sain de le laisser peser sur les générations suivantes. Se pose aussi le problème des prélèvements fiscaux. L'État a besoin d'argent, sans même prendre en compte les critères de Maastricht qui imposent aux États européens un minimum de rigueur financière, la course en avant dans l'endettement ne risque-t-elle pas d'alourdir encore la facture fiscale et d'envenimer le débat et pour savoir qui doit la payer ? Or, la crise des gilets jaunes l'a montré, se pose aujourd'hui un vrai problème de justice fiscale. Qui doit payer et combien ? Les classes moyennes connaissent depuis plusieurs années un phénomène de paupérisation qui fait qu'aujourd'hui, les plus touchés commencent à contester l'impôt. Ce n'est pas nouveau. Nous publions ainsi un texte étonnant de Vauban, le grand architecte militaire qui, sous le roi Soleil, défendait l'idée que tous devaient payer l'impôt et en équité.
Et le protectionniste alors, Catherine, on le croyait aux oubliettes ?
Eh ben oui, mais on pensait que Ricardo et Bastiat avaient convaincu définitivement de l'efficacité d'un monde sans droits de douane et que l'Organisation mondiale du commerce était une institution immuable. Mais Donald Trump a remis le protectionnisme à la mode. Mais il faut dire quand même qu'au 19e siècle, un penseur comme Friedrich Schlitz avait démontré qu'il pouvait être très utile pour les économies en développement. Il fallait en effet protéger les jeunes pousses pour leur permettre de grandir. Aujourd'hui que nous sommes dans un monde mondialisé disais, qui n'est pas sans défaut. Certains espèrent que les levées de boucliers douanières, vont permettre un certain rééquilibrage. Mais rien n'est sûr. De fait, il est intéressant de voir que les économistes s'accrochent à leurs concepts et à leurs équations, mais la réalité oblige toujours les politiques à gauchir les grands principes sans épuiser les débats.
Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Un ami viendra ce soir.
Je m'occupe avec la guerre secrète. Ma guerre impitoyable contre les malfaiteurs, les assassins, ceux qui conspirent de trahir la démocratie.
Écoutez Démocratie de FMR 2 mars. Merci beaucoup Dominique Andolfato et Carré Lyon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, comme chaque vendredi, place à notre table ronde d'actualité économique. Alors que la croissance ralentit outre-Rhin, faut-il repenser le modèle allemand? Voilà la question que l'on se posera en compagnie de nos trois invités. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.